Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Tiphaine Bonnet, avocate au cabinet d'Une. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Fred.
Alors le sujet du jour, le droit à la décompilation des logiciels.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour rester dans le thème de la chronique du mois dernier de Noémie sur le salarié et les logiciels, je vais m'intéresser au droit à la décompilation du logiciel. Donc, il s'agit d'un droit dont les contours ont été récemment rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt d'octobre 2021. Donc, la CJUE, la Cour de justice, est une institution de l'Union européenne qui va appliquer et interpréter le droit au sein de l'Union européenne et qui va permettre d'avoir une interprétation uniforme. Et dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, elle opposait le CELOR, qui est un organe public de Belgique, à la société belge Top System. Et Top System fournissait des prestations de développement et de maintenance informatique pour le compte du CELOR et avait développé des logiciels. Donc elle lui mettait à disposition un logiciel cadre avec des fonctionnalités et elle avait développé des fonctionnalités spécifiquement pour les besoins du CELOR. Et donc lui, le CELOR détenait une licence d'utilisation sur ses logiciels. Et il y a eu quelques problèmes de fonctionnement qui ont été constatés par le CELOR, notamment lors de la mise en place d'un nouvel environnement. Et la société Top System n'était pas parvenue à un accord avec le CELOR et elle avait introduit en fait un recours devant les juridictions de l'État belge. Et elle demandait en fait à faire constater d'une part que le CELOR s'était livré à la décompilation du logiciel et donc en violation de ses droits exclusifs. Et elle demandait ainsi la condamnation du CELOR et de l'État belge au versement de dommages d'intérêt au titre de la décompilation du logiciel et de la copie des codes sources qui avaient été réalisés. Et donc pour rappel, au sein de l'Union européenne, la protection des logiciels elle est assurée par une directive qui date de 1991, qui avait été mise à jour en 2009, et donc qui avait consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d'auteur. Et dans cette directive, on retient principalement quatre articles. Donc l'article 4 qui va définir tous les droits exclusifs qu'un auteur ou qu'un titulaire des droits va détenir sur ce logiciel, et donc tous les actes qu'il va pouvoir autoriser ou interdire. On a l'article 5 de la directive qui lui va prévoir les actes que peut faire un licencié sans avoir besoin du consentement du titulaire. Et on va avoir aussi l'article 6 qui est intitulé « Décompilation » et qui va indiquer que l'autorisation de l'auteur n'est pas nécessaire lorsque la décompilation du logiciel est réalisée pour l'interopérabilité du logiciel, et donc sous réserve du respect de certaines conditions. Et donc ce sont ces articles-là qui ont posé des points de crispation, puisqu'en fait le CELOR reconnaissait avoir procédé à la décompilation d'une partie du logiciel de Top System, mais seulement dans le but d'en désactiver une fonction qui était défaillante, puisqu'il soutenait avoir le droit de procéder à la décompilation du logiciel dans le but de corriger certaines erreurs qui rendaient impossible le fonctionnement conforme à la destination du logiciel. C'est-à-dire que le logiciel ne pouvait pas être utilisé pour l'usage pour lequel il avait été créé. Et à l'inverse, la société Top System soutenait que le CELOR s'était livré de manière illégale à la décompilation du logiciel, puisqu'au regard de la directive et de la loi belge, la décompilation ne serait permise qu'à des fins d'interopérabilité et ne serait pas permise pour corriger les erreurs qui affectent le logiciel. Et donc deux questions ont été soulevées devant la Cour. Un licencié peut-il décompiler le logiciel à des fins de correction d'erreur? Et si oui, est-ce qu'il faut satisfaire les conditions de l'article 6, donc l'article 6 qui prévoit la décompilation à des fins d'interopérabilité, est-ce qu'il faut les satisfaire ces conditions? Et donc la Cour de justice, dans cet arrêt du 6 octobre 2021, en fait, elle nous livre un raisonnement qui est assez pragmatique et vraiment très pédagogue, puisqu'elle va commencer par rappeler que seul l'auteur du logiciel ou le titulaire des droits va disposer du droit d'interdire ou d'autoriser donc notamment la reproduction du logiciel, sa traduction, son arrangement, sa transformation, et également sa distribution. Et ensuite, elle va rappeler que parmi ces actes, on ne retrouve pas l'acte de décompilation. Du coup, elle va se livrer, on va dire, à un travail de définition de la décompilation. Et elle va reconnaître qu'en fait, décompiler un logiciel, c'est reconstituer son code source. Donc c'est opérer une traduction du code objet en un code source. Et c'est le fait de reproduire ensuite ce code retraduit pour pouvoir corriger les erreurs. Donc elle constate que la traduction et la reproduction, ce sont des actes qui sont soumis à autorisation de l'auteur. Et donc, puisque ces actes sont soumis à autorisation de l'auteur, le licencié peut réaliser l'acte de traduction et de reproduction pour pouvoir corriger des erreurs, conformément à l'article 5 de la directive. Donc ça, c'est tout le raisonnement auquel se livre la Cour de justice pour finalement reconnaître que oui, il est possible de décompiler le logiciel seulement si c'est pour réaliser une correction des erreurs qui vont affecter ce fonctionnement. Et donc, dans un second temps, la question était de savoir est-ce qu'il faut respecter les conditions de décompilation à des fins d'interopérabilité. Et donc là, la Cour, elle a un raisonnement très très simple. Elle considère que décompiler un logiciel à des fins d'interopérabilité, ça n'a pas du tout la même finalité que décompiler un logiciel à des fins de correction d'erreur. Et donc, elle considère qu'il n'est pas nécessaire de satisfaire les conditions de l'article 6, qui sont assez strictes, puisqu'il faut pouvoir démontrer que le licencié a accompli cette décompilation, donc il avait le droit de le faire. Il faut démontrer que les informations qui étaient nécessaires à l'interopérabilité n'étaient pas déjà facilement et rapidement accessibles. Et il fallait aussi démontrer que la décompilation se réalisait seulement pour l'interopérabilité. Donc là, c'est assez intéressant. On sait que ces conditions-là n'ont pas besoin d'être remplies pour pouvoir décompiler le logiciel à des fins de correction d'erreurs. Mais elle prend quand même le soin de préciser que s'il y a une décompilation, ça peut être fait seulement pour corriger les erreurs et on ne peut pas utiliser les informations qu'on peut en tirer à d'autres fins. Et donc, elle va apporter encore quelques petites précisions qui sont assez intéressantes, puisqu'elle va nous dire que si le code source est déjà contractuellement accessible, dans ce cas-là, on ne peut pas décompiler le logiciel, ça n'a aucun intérêt pour corriger les erreurs. Et d'autre part, elle va nous dire qu'il est possible en fait de prévoir cette correction des erreurs contractuellement et d'avoir des stipulations contractuelles qui sont spécifiques. Et donc, elle va nous dire qu'il n'est pas possible d'exclure le fait de pouvoir corriger les erreurs. En revanche, le titulaire des droits sur un logiciel et le licencié, ils peuvent aménager cette possibilité de corriger les erreurs, notamment en prévoyant que le titulaire va s'engager en fait à réaliser une maintenance corrective du logiciel dès lors que des erreurs lui seront remontées. Donc, ce qu'il faut retenir de cet arrêt, c'est principalement le fait qu'en l'absence de stipulation contractuelle, le licencié peut accomplir sans l'accord du titulaire des droits la décompilation du logiciel pour pouvoir procéder à la correction des erreurs qui vont affecter son fonctionnement. Mais il ne peut pas utiliser les résultats de la décompilation à d'autres fins. Bon, après, évidemment, en matière de logiciel libre, cet arrêt il a une portée un petit peu plus limitée, puisque comme le code source est déjà accessible grâce à les licences libres qui lui associent, toute personne peut pouvoir modifier et adapter le logiciel pour corriger les erreurs. Mais il nous semblait quand même important de relever cet arrêt qui permet un petit peu de clarifier les règles applicables à la décompilation.
Bah écoute, tu as bien fait, effectivement, ça les éclaircit. Et ceci dit, pour le logiciel libre, effectivement, il n'y a pas besoin de décompiler parce que normalement, le code source est disponible avec les droits de modification. Par contre, le droit à la décompilation pour des questions d'interopérabilité peut être intéressant pour le logiciel libre quand on développe des logiciels libres qui vont devoir être interopérables, c'est-à-dire pouvoir fonctionner avec des logiciels tiers qui sont privateurs. Et dans ce cas-là, il peut être intéressant, mais il faut que les conditions soient réunies de pouvoir faire de la décompilation si les informations d'interopérabilité ne sont pas disponibles. Et souvent, elles ne le sont pas, malgré le fait que, par exemple, en France, il y a une autorité qui est en charge normalement de la régulation des mesures techniques de protection et l'interopérabilité, qui était intégrée à l'ADOPI, qui maintenant va s'appeler l'ARCOM, si je me souviens bien, avec la fusion CSA-ADOPI.
Exactement, à partir de janvier prochain.
Voilà. Enfin, le droit reste toujours une matière absolument incroyable. Mais si, je pense que tu penses la même chose que sur l'informatique. Enfin, voilà, c'est...
Exactement.
En tout cas, merci Tiffaine. Donc, c'était la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Tiffaine Bonnet, avocate au cabinet d'une. Je te souhaite une belle fin de journée, et puis sans doute à 2022 pour la prochaine chronique.
Merci, on se voit en 2022.